J'ai hâte d'entendre quand même Sabine Procoris qui va peut-être aborder la question d'un autre côté, si c'est la souffrance dont nous parlons, si c'est un autre type de souffrance.
Ben, écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que ce que je pourrais apporter, ça résonnera avec un certain nombre de choses qui ont été dites par les uns et par les autres. Et aussi, j'aimerais bien repartir de Foucault. Quand il dit, c'est-à-dire de repartir de juste avant de pouvoir entrer un peu plus précisément dans ces interrogations que nous pose le fait que nous éprouvions des douleurs, que nous tombions malades, que nous souffrions. On reviendra sur cette distinction, bien sûr, douleur-souffrance. J'aimerais bien juste, pour moi, pour que soit claire la manière dont j'interviens, situer un peu juste cette question du corps, et en repartant de Foucault, quand il dit « mon corps, topie impitoyable », c'est-à-dire « je ne peux pas m'en détacher, c'est le lieu où je suis de toute manière ». Ben oui, évidemment. Et ça nous conduirait, en fait, à faire peut-être un pas, à continuer un peu dans la direction de ce que nous propose Foucault, c'est-à-dire qu'au fond, et peut-être à nous défaire de cette espèce de réflexe de pensée que nous avons, enfin ici notamment dans notre culture occidentale, qui est de séparer justement le corps d'un côté, qui serait ce qui est physiologique, ce qui est anatomique, etc., et puis l'esprit ou la pensée de l'autre. Ça, c'est le dualisme hérité de Descartes. J'ai une petite idée, d'ailleurs, de la raison pour laquelle Descartes a pu imaginer ça, même si après, il s'est embrouillé un peu, il s'est pris les pieds dans le tapis des passions, puisque dès lors qu'il aborde la question des passions de l'âme, c'est-à-dire de ce que l'âme subit du fait du corps, donc les émotions, toutes ces choses-là, et les excès auxquels ça peut nous entraîner, là ça marche plus tellement bien son dualisme, donc ça devient très 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 compliqué, mais c'est intéressant que ça devienne si compliqué, évidemment. Alors j'aimerais bien sortir autant que possible de cette idée-là, et je vous rapporterai juste une petite anecdote. Cet anthropologue français du début du 20e siècle, fin du 19e, Maurice Linhart, qui racontait qu'un jour, à son informateur en Nouvelle-Calédonie, lui, il était également pasteur, hein, Lénard, et il avait dit à son informateur, donc Kanak, finalement, nous vous avons apporté l'esprit, nous, les Occidentaux. Et l'autre lui répond, pas du tout, vous nous avez apporté le corps. Ce qui était une façon de dire, en fait, ce que vous nous avez apporté, c'est la séparation, corps-esprit, et en fait, on s'y trouve pas dans cette affaire-là. Bon, c'est un trait dominant, disons, de nos réflexes de pensée. Néanmoins, il y a d'autres courants dans la philosophie qui n'est pas du tout prise dans cette idée de dualisme, par exemple Spinoza, pour qui le corps et la pensée sont pas deux substances ou deux réalités hétérogènes, mais sont une seule et même dimension, enfin sont une seule et même nature, une seule et même dimension de la réalité, mais vues sous des modalités, sous des modes différents. Autrement dit, ce sont des perspectives ou des façons d'entrer, des portes d'entrée, des chemins différents vers la réalité qui est en réalité à la fois et indissociablement corps et pensée. Et donc quand Foucault nous dit ça, vous voyez bien qu'il nous le dit avec une voix qui est absolument habitée et absolument, c'est un corps, une voix finalement. Donc je proposerais, si vous voulez, à partir à la fois de l'expérience de la psychanalyse, tout simplement, cette façon d'envisager les choses, cette description, disons, en proposant l'idée que le corps, finalement, c'est juste le médium de notre relation au monde. Et évidemment, on a effectivement, comme dit Foucault, on est partout avec son corps, ça, il n'y a pas de doute. On l'aime, on ne l'aime pas, hein. Forcément, on ne peut pas faire sans. On est son corps d'une certaine manière, mais son propre corps est aussi une sorte d'étranger, puisque bien sûr qu'on connaît sa figure dans la glace, mais tous les processus qui se passent à l'intérieur d'un corps, mais ils nous demeurent largement inconnus. Diderot dit ça très très bien quand il dit dans les éléments de physiologie qu'il faut se représenter notre corps comme une assemblée d'animaux. Il dit, mais quand vous voulez manger, vous croyez que c'est vous qui voulez manger? Pas du tout, c'est l'estomac. Ou pisser, c'est pareil, c'est la vessie, et ainsi de suite. Et il dit, en fait, ils sont plus ou moins en accord les uns avec les autres, parfois ils se disputent, mais en réalité, c'est une foule, en fait, d'événements qui constituent cette réalité, disons, matérielle qu'est notre corps, et qui est notre médium de rapport au monde. Au monde sensible, et au monde, enfin, relationnel. Voilà. C'est-à-dire que, de toute façon, quand on vient au monde, on n'a pas de pensée encore. Comme dit aussi Diderot, on est un amas de cordes, un galimatia de cordes sensibles. C'est-à-dire qu'on perçoit, on sent, plein de choses vous arrivent en vrac, puis là-dedans, vous triez, et petit à petit, se distingue le dehors du dedans. Et c'est Beckett qui dit ça très bien en disant, quand il parle de son corps, en disant le corps, c'est « je suis la chose qui partage le monde en deux, d'un côté le dehors, de l'autre le dedans ». Et il continue en disant, ça c'est dans l'innommable, « je suis le tympan », c'est-à-dire une membrane sensible qui ne cesse d'être en quelque sorte ébranlée, mise en mouvement à la fois par des affects, des sensations, des perceptions qui viennent de l'extérieur, mais aussi par tout ce qui vient du dedans, dont font partie les émotions. Alors ça, c'est une première chose. Je proposerais l'idée que le corps, c'est le médium principal de notre relation. Enfin, c'est le médium de notre relation au monde. Goffman disait ça très bien en disant que le conférencier, nous, arrive équipé d'un corps. Ben oui, évidemment. C'est-à-dire, on croit qu'il est là juste avec sa pensée. Pas du tout, évidemment. Et d'ailleurs, ça peut occasionner de menus embarras. Par exemple, moi, j'ai oublié mes lunettes, donc je vous vois flou. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Et si j'avais mes lunettes, je pourrais pas lire le texte parce que je suis presbyte quand je suis corrigée, puisque je suis devenue plus âgée. Voilà.
Sabine, une seconde, juste une, oui. une toute petite seconde. Oui. Une, par rapport à cette séparation, oui. quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus qui, a dit que le corps était ce qui séparait le monde des couleurs
oui.
du monde des douleurs.
Non, c'est beau ça. C'est effectivement, même, ça ressemblerait bien à du Cézanne.
Voilà.
Ouais. Donc c'est un médium. Alors à partir de là, quel mot pour le corps ? Alors bien sûr, ça veut dire que nous sommes un être vivant déjà. Et en tant qu'être vivant, nous appartenons à l'ensemble de tous les êtres vivants. Et donc nous sommes exposés à la maladie. Nous naissons, nous vieillissons et nous mourons. Donc c'est une dimension, notre corps, c'est vulnérable forcément, c'est altérable. C'est quelque chose qui est sans arrêt en proie à des altérations, dont la maladie. Mais tout affect est une altération de l'état antérieur et reconfigure ce que nous sommes en tant que corps. Donc nous appartenons au fond au monde des vivants, donc en tant qu'organisme si vous voulez, et organisme qui peut effectivement être affecté de différentes maladies, mais la maladie, ça n'est pas anormal de tomber malade, ça fait partie bien entendu de la réalité humaine, et personne ne l'a dit mieux je crois que Canguilhem, qui cite d'ailleurs un mot de la correspondance de Freud à Louis Andrea Salomé à la fin de sa vie, où d'abord il commence à exprimer une espèce de révolte contre le fait de devoir prendre congé. Et Freud a eu un cancer pendant 23 ans quand même, avec 15 opérations. Enfin, et il a tenu, jusqu'au moment où il a décidé que ça suffisait. Et il avait demandé à son médecin, qui était Max Schur, de l'aider à mourir. Bon. Et à la fin, dans l'autre lettre à Louis Andrea Salomé, il dit « Je tends petit à petit vers un état de plus en plus inorganique, vers le rien. » Il dit qu'il est en train de lire « La peau de chagrin », qui est ce livre de Balzac où tout se rétrécit et où effectivement le héros essaye de ne pas désirer, donc de ne pas vivre, mais ça n'empêche pas qu'il va quand même... Ce désir-là est tellement fou que ça fait rétrécir de toute manière la peau de chagrin. Et Canguilhem commente en disant « Entre-temps, la maladie a fait son travail, pour reprendre le terme de travail, c'est-à-dire à transformer quelque chose. » Et il nous dit aussi que les maladies sont ce qui nous rappelle et nous oblige et nous contraint à admettre que nous sommes des êtres mortels, tout simplement. Voilà. Bon, alors ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième concerne cette question des mots du corps. D'abord, peut-être MOTS, les mots du corps, parce que dans certains types d'affections somatiques, dont on a parlé avec les élèves cet après-midi, dans les symptômes hystériques, justement, et dans certains symptômes dits psychosomatiques, eh bien, c'est effectivement... Mais prenons les symptômes hystériques, parce que c'est quand même assez spectaculaire. Il n'y a pas du tout de lésion organique. Aucune. Néanmoins, il y a un symptôme physique, somatique, qui n'est pas physiologique, et qui fait que quelqu'un, tout d'un coup, peut se trouver empêché de marcher, ou boiter, ou souffrir le martyr de ceci ou de cela, mais il n'a rien d'organiquement décelable. Alors on dit, il simule, mais non. La douleur est bien réelle, et l'entrave à sa capacité d'action qu'elle constitue est tout aussi réelle, mais ce qui se passe alors, c'est que ces symptômes à même le corps, sont en fait une façon de raconter par le symptôme une histoire. Ce qui nous renvoie au fait que notre corps est évidemment l'interface ou le médium entre le monde et nos représentations, le monde matériel, si vous voulez, donc nous sommes un organisme, mais aussi l'interface sur laquelle la surface, comme c'est Foucault qui disait ça, en parlant de ce corps comme surface d'inscription des événements, et il parlait du corps tout imprimé d'histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, puisque ce corps est notre seul médium dans le rapport au monde, eh bien avec ce qui nous entoure, forcément que nos relations s'y retraduisent, s'y inscrivent, et d'ailleurs l'exemple de Zorn que vous citiez, c'est un exemple extraordinaire de ça. Canguilhem cite aussi un texte de Kafka où il parle de ça, qui était tuberculeux, comme vous savez, et il y a tout un dialogue que Kafka imagine entre son cerveau et son poumon, et dont il est exclu, lui, Kafka, parce que ça se passe entre ces instances qui, en fait, discutent, et puis c'est le poumon qui prend le dessus. Bon, et Kafka commente. Mais évidemment que tout ça, c'est Kafka qui le raconte, c'est-à-dire que tous ces accidents, tous ces événements du corps qui sont en même temps des événements dans sa vie, sont des drames de son existence en réalité, donc liés à sa vie relationnelle aussi, eh bien, ça devient une expérience. Ça devient une expérience. Alors, donc il y a les mots MOTS du corps, c'est-à-dire lorsque la souffrance ou la douleur physique, en fait, sans substrat organique ou physiologique, raconte en fait une histoire liée à la façon de traduire et de figurer à même le corps des représentations, mais c'est parce que, c'est pour une raison finalement assez simple, ça n'a rien de si mystérieux en réalité, c'est parce que, évidemment, que notre corps émotionnel, affectif, érotique, eh bien, s'inscrit à même le corps organique et physiologique. C'est la même surface, mais c'est comme un palimpseste, si vous voulez, où il y a plusieurs strates qui sont présentes, plusieurs écritures qui sont sur la même surface. Donc, à partir de ce moment-là, quand Deleuze parle du corps sans organes, à un certain moment, il parle de ça. Et quand Foucault parle à un moment donné d'un corps à l'état volatile et diffus, il parle également de ça, c'est-à-dire d'un corps qui est non seulement un corps physiologique qui nous rattache au monde, à l'univers vivant, tout simplement, mais aussi un corps, une surface organique dans laquelle se figure l'ensemble de nos liens au monde, à nos proches, à ceux qui nous ont donné les premiers soins, mais aussi à l'univers, la famille de Zorn, c'est typique, mais aussi à l'univers politique, par exemple. À l'univers, il y a des gens qui deviennent malades, parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable, qu'ils traduisent quelque chose de la folie du monde dans leur propre maladie. Là, je suis en train de lire un très beau livre de Ralph Dutley qui a écrit une biographie sur Mandelstam. Il a écrit un livre qui s'appelle Le dernier voyage de Soutine et qui est une sorte de roman-récit où il raconte le peintre souffrait d'un ulcère terrible à l'estomac. Il décrit sa douleur d'une manière absolument incroyable littérairement, et puis en même temps on voit bien que cette maladie, cette douleur en réalité, c'est une façon aussi de métaphoriser, de dire quelque chose de la douleur du monde en réalité, de la folie du monde, puisqu'on est effectivement traversé par tout ce qui nous entoure, et quand c'est trop violent, ça se traduit d'une manière ou d'une autre. Alors ça, ce sont les premières choses que je voulais dire. Je voudrais avancer, faire un pas de plus sur la question de la maladie et peut-être continuer un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire en effet, on envisage toujours la maladie, on n'a pas envie de tomber malade, c'est vrai, je parle de maladie grave, on envisage toujours la maladie, la douleur comme des purs ennemis. Mais en même temps, dans la mesure où ça fait partie, ce sont juste des signes de notre appartenance au monde des vivants, évidemment que forcément, pour pouvoir effectivement transformer la douleur en souffrance ou au-delà de la souffrance en œuvre, par exemple Nietzsche, quand il raconte, on parlera de Nietzsche tout à l'heure peut-être, eh bien à partir de là, ça veut dire que la maladie, c'est pas juste un dysfonctionnement, c'est une autre façon, c'est une épreuve, disons, c'est une épreuve du vivant dans lequel il réinvente son organisme et son psychisme aussi pour les êtres humains, sont amenés à réinventer dans la mesure du possible des nouvelles normes de vie. C'est-à-dire, comme vous disiez, la personne qui voulait lire La recherche du temps perdu, finalement, lui, il choisissait dans son économie de vie d'avoir un peu plus de souffrance pour gagner enfin une possibilité qui lui était ôtée s'il était effectivement dans trop de douleur d'ailleurs, parce que s'il souffrait trop, il serait que son mal de dents ou son mal de je sais pas quoi, sa douleur, ou pas assez de conscience et donc pas pouvoir lire. Donc il fait une sorte de deal entre ce qu'il peut supporter de douleur, et donc la souffrance qu'il peut endurer, et puis ce qu'il veut vivre, finalement. Et ça, ce sont des choix personnels, en réalité, et qu'il est très important de pouvoir écouter, entendre et respecter. Donc, quand Guilhem dit une chose quand même très étonnante, il nous dit que l'homme est un être capable de maladie. C'est magnifique, ça, parce que quand on dit qu'il est capable de maladie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la maladie est cette épreuve, non seulement qui nous rappelle notre condition mortelle, mais aussi qui, d'une certaine façon, eh bien, nous conduit à certaines expériences dont vous avez parlé avec le bras cassé, par exemple, qui peuvent être traversées et transfigurées pour accéder à d'autres dimensions possibles du réel, de son propre réel, de sa propre vie. Et il a un texte très sévère, notamment sur les médecins très hygiénistes, et il dit, écoutez ça, c'est quand même extraordinaire, il dit, contre certains médecins trop prompts à voir dans les maladies des crimes, parce que les intéressés y ont quelque part du fait d'excès ou d'omission. Vous avez trop fumé, vous avez trop bu, etc. Nous estimons, dit Canguilhem, que le pouvoir et la tentation de se rendre malade sont une caractéristique essentielle de la physiologie humaine. Et bon, moi je commentais un petit peu en disant qu'en fait finalement la possibilité de l'épreuve de maladie, et même étrangement à certains moments d'un recours à la maladie, comme occasion de mettre en œuvre en fait la capacité de résistance à la destruction que représente en fait l'invention de nouvelles formes de vie pour surmonter la crise, c'est paradoxalement une pierre de touche vraiment de notre puissance vitale, de notre capacité vitale. Nietzsche ne dit pas autre chose. Quand vous lisez un livre comme Le Gai Savoir, il a écrit une très belle préface, très courte, et il écrit que ce livre, Le Gai Savoir, il l'a écrit au sortir d'une crise extraordinairement douloureuse, bon, psychique, hein, mais qui s'est manifestée aussi physiquement. Et il dit que la douleur, on ne peut pas dire qu'elle améliore, mais elle approfondit. Et elle permet, effectivement, à condition de trouver une façon de l'endurer qui ne soit pas la subir, ce qui n'est pas pareil, subir et endurer, eh bien, ça permet de transfigurer quelque chose, de transformer son expérience. C'est un travail, au sens, dit aussi Canguilhem, de la torture pour la révélation. C'est-à-dire qu'au fond, ça fait partie de notre vie, donc comment on peut faire avec ça ? Est-ce que ça nous détruit ou est-ce que ça nous disloque ? Ou est-ce que c'est l'occasion de renouveler d'une autre manière, de transformer nos manières de vivre ? Et sans même parler de la maladie et de la douleur, ne serait-ce que le vieillissement. Le vieillissement et le grand âge, et nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de personnes très âgées, forcément, c'est une diminution des capacités que l'on a à l'âge de 30 ans, de 40 ans, évidemment, et avec la souffrance et la douleur, et les douleurs qui peuvent s'en suivre. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne soit plus des êtres vivants. Et je pense que tant qu'on est vivant, on n'est pas mort, justement. Je dis d'expérience, parce que je pense à une situation très ancienne où j'avais accompagné un malade en phase terminale de sida avant les trithérapies. Et effectivement, cet homme, il est mort, hein, bien sûr, la maladie a gagné, mais pendant les années où il a fait ce travail, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé de tout à fait important dans le sens qu'il donnait à sa vie. Non pas du tout pour dire c'était très bien d'avoir le sida, bien sûr que non, il ne s'agit pas de ça. Mais disons, ça a été pour lui un moment à travers lequel quelque chose de possibilité de vie, de courage, d'invention aussi, ont été mis par cette épreuve-là révélée d'une certaine manière. Et vous voyez, si on revient aux Grecs dont parle souvent Robert, moi aussi j'aime beaucoup revenir aux Grecs, les héros des épopées homériques, eh bien justement ce qui est si beau, et Peggy en parle, c'est qu'ils sont vulnérables. Ils sont exposés, même Achille, que sa mère trempe dans l'eau du Styx pour qu'il soit invulnérable, il y a un petit endroit où il reste vulnérable, son talon, le fameux talon d'Achille. Et Homère, quand vous lisez l'Iliade, il ne cesse de décrire les blessures, le sang qui coule, la douleur, tout ça. C'est-à-dire, ce qui fait la grandeur, en fait, de ces héros, c'est qu'ils ne sont pas des immortels, justement. Ce sont des mortels.
On peut discuter entre nous. Rarement les héros grecs meurent de faiblesse.
Oui, oui. Ils meurent dans
de maladie. Ils meurent toujours d'événements plus grands qu'eux, ou d'hommes plus grands qu'eux.
Ils sont exposés à la vulnérabilité. Exposés à la blessure. Mais en même temps, quand Ulysse revient, il y a le vieil, etc. Voilà. Mais disons, la vulnérabilité, ça fait partie de la condition humaine. Ça fait partie de la condition humaine. Bon, voilà. Et pour terminer sur cette question-là, je voudrais juste rappeler une phrase que cite Canguilhem de Fitzgerald dans la fêlure, et que si Deleuze aussi, que je vais vous lire, parce que je m'en souviens pas, je m'en souviens à peu près par cœur, mais je suis pas très sûre. C'est tellement bien que je voudrais pas vous l'abîmer. Et c'est dans un très beau texte.
Là, je précise pour les élèves, là, c'est le réflexe de prof.
Oui.
Georges Canguil M.
C'est un oui.
Donc c'est un grand, il était médecin et c'est un des grands philosophes qui a réfléchi sur oui. la différence entre le normal et le pathologique.
Voilà, il a écrit un c'était livre.
C'était un grand maître de Michel Foucault.
Exactement. Ouais.
Et aussi de François Dagonet qui a aussi qui était.
Et il
en
a et son grand livre, c'est le normal et le pathologique, justement, où il montre bien que le pathologique, c'est une certaine bien allure sûr. Du normal, c'est-à-dire c'est un certain état transformé du normal, et c'est une nouvelle normative, c'est-à-dire une normativité à l'œuvre, y compris dans le pathologique. Alors
c'était pour vous aider à trouver la citation.
Voilà, je l'ai trouvé. Et Scott Fitzgerald a écrit un très beau livre qui s'appelle La fêlure, et il commence par ces mots: toute vie et bien entendu un processus de démolition. Et Canguilhem continue en disant, l'auteur ajoute quelques lignes après, la marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. Et Comment commande Canguilhem, il dit, apprendre à guérir, c'est apprendre à connaître la contradiction entre l'espoir d'un jour et l'échec à la fin, sans dire non à l'espoir d'un jour. Intelligence ou simplicité, je trouve que c'est vraiment magnifique, c'est très fort, et je crois que ça dit quelque chose de tout à fait fondamental sur qu'est-ce que c'est, effectivement, qu'est-ce qui nous arrive quand nous tombons malades, ce n'est pas dénué de sens a priori, et puis comment pouvons-nous faire avec cette situation qui est une composante de notre vie, où se rejouent en général beaucoup de choses de nos existences. Évidemment, quand je parle de maladies graves, pas quand vous avez juste un rhume, évidemment. Et pour terminer, je voudrais juste revenir à Nietzsche et à cette magnifique préface du Gai Savoir, qui est un texte que je recommande, dont je recommande la lecture parce qu'il est d'une force de vie incroyable, où il dit justement que précisément cette expérience des maladies, ce sont des expériences en fait toujours de transformation, de métamorphose, et du coup ça conduit à quelque chose qui a à voir avec, disons, ce qu'il appelle l'art. C'est-à-dire la possibilité dans nos vies, dans nos expériences, pas forcément parce qu'on les conceptualise, mais parce qu'on trouve des manières de vivre avec ses proches, avec soi-même, etc., qui se sont transformées, eh bien, parvenir à transfigurer, comme il dit, ce qui nous arrive et que nous pourrions subir comme un destin qui nous accable, en quelque chose qui, au fond, fait partie de notre grandeur d'être humain, en fait. Voilà.
Très bien. Ah ouais.